Recevons Jean-Charles Darmon, qui est directeur adjoint de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, pour une conférence intitulée « La moraline et les moralistes ». Ah oui, mais ça va être compliqué. Là, si vous ne m'entendez pas, je ne peux pas faire mieux. Donc, je fais de mon mieux. Donc, cette leçon s'inscrit dans la série des 9 conférences qui est consacrée au thème de « Quels humanismes pour quelle humanité aujourd'hui ?» que nous vous proposons donc jusqu'au 19 octobre inclus. Les prochaines conférences auront lieu ici même en janvier 2009 autour du thème « Le magnétisme ». Et à cette occasion, nous recevrons donc Albert Fert, qui est le prix Nobel de physique 2007, qui viendra donner une conférence ici même le 15 janvier 2009. Un mot très rapide sur les modes de diffusion de l'UTLS. Pour ça, je vous renvoie au petit programme qui est disponible à l'entrée de l'amphithéâtre pour retrouver les adresses internet où vous pouvez revoir les conférences en différé. À la radio sur France Culture, dans le cadre de l'émission L'éloge du savoir, vous pourrez retrouver cette série de conférences à partir de mi-février 2009. Elle sera diffusée les jeudis et les vendredis, puisqu'en ce moment sont diffusées les jeudis et les vendredis la série qui a eu lieu ici sur le génome. Donc je présente notre conférencier de ce soir, Jean-Charles Darmon, qui est directeur adjoint de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm. Il est professeur de littérature française à l'Université de Versailles, membre de l'Institut universitaire de France. Il est l'auteur de nombreuses études consacrées aux relations entre littérature, philosophie et morale à l'âge classique. Ses principaux ouvrages, Philosophie épicurienne et littérature au XVIIIe siècle en France, paru au PUF, Philosophie de la fable, La Fontaine et la crise du lyrisme, au PUF, Le songe libertin, Cyrano de Bergerac, D'un monde à l'autre, L'athée, la politique et la mort. Il a publié également une dizaine d'ouvrages collectifs, dirigés avec Michel Delon, Les classicismes, Histoire de la France littéraire, au PUF, et édité Les fables de La Fontaine, ainsi que Les lettres satiriques et amoureuses de Cyrano de Bergerac. Dernier livre paru dans le cadre des activités du Centre de recherche sur les relations entre littérature, philosophie et morale, qu'il dirige à l'École normale supérieure, le titre étant « Le moraliste, la politique et l'histoire » de La Rochefoucauld à Derrida. Je lui cède donc maintenant la parole pour une petite heure, après quoi nous pourrons avoir un échange avec le public. Merci beaucoup.
Bien, merci à vous. Donc, le titre que j'ai présenté pour cette communication dans le cadre de cette série de réflexions sur l'humanisme, quel humanisme, est une référence implicite par le terme de moraline, qui n'est pas connu de tout le monde, à des propos de Nietzsche dans Ecce Homo et surtout dans l'Antéchrist. Donc je vous lis en guise d'exergue une référence où Nietzsche fait intervenir ce néologisme, la moraline, qu'il oppose à la vraie morale. Le son est mauvais. Que dois-je faire ? Je dois parler... Là, vous m'entendez mieux ? Et là, vous m'entendez mieux comme ça ? Bon. Bien, donc en guise d'exergue, une référence implicite à Nietzsche qui opposait la moraline à la vraie morale, selon lui. Un spectacle douloureux et épouvantable s'est élevé devant mes yeux. J'ai écarté le rideau de la corruption des hommes. Ce mot dans ma bouche est au moins à l'abri d'un soupçon, celui de contenir une accusation morale de l'homme. Je l'entends, il importe de le souligner encore une fois, dépourvu de moraline, le terme est souligné, et cela au point que je ressens cette corruption précisément aux endroits où, jusqu'à nos jours, on aspirait de la manière la plus consciente à la vertu, à la divinité. etc. Ce propos est lié de très près à une critique impitoyable de certains usages idéalistes de l'humanisme, trouvant dans les autorités léguées par la tradition des idéaux, des normes auxquelles se plier, des alibis pour un prêt-à-penser, pour un prêt-à-porter, si j'ose dire, en matière de morale, que le concept de moraline permet d'englober. Dans cette mesure même, il pourrait être aisément mis en relation avec les éloges profonds que Frédéric Nietzsche fait par ailleurs des moralistes français, de Montaigne à La Rochefoucauld, en passant par Pascal lui-même. Autant d'antidotes aux illusions délétères d'un rapport faible à la morale. Autant de puissance à notre disposition pour rester en éveil quant à la psychologie des forces qui sont sourdement à l'œuvre sous la morale. Autant de formes, autant de styles régénérant de l'intérieur le discours moral, ouvrant ainsi une ère du soupçon sans précédent à l'égard des entreprises humanistes prétendant refonder ou fonder la morale dans l'absolu. Mon propos se situe en relation avec une tentation assez forte de nos jours qui consiste, par ces temps de détresse où se trouve l'enseignement de la littérature, il faut bien le dire, à essayer de relégitimer cet enseignement pour des raisons essentiellement morales, en mettant au premier plan des raisons et des finalités morales. Tant la littérature se trouverait en quelque sorte une matière extraordinaire pour apprendre ce qu'est le bien. Ce type de démarche, encouragé aujourd'hui par tout un courant critique et philosophique, en Amérique notamment, on l'a baptisé « ethical theory », une théorie éthique de la littérature, est très intéressant, mais il a souvent pour effet d'occulter l'inquiétante étrangeté des expériences de pensée que la littérature nous propose, même la plus classique, en matière de morale, loin, très loin assurément, des leçons de morale que les esprits bien-pensants prétendent parfois y trouver à l'usage des élèves. Ceux que l'on nomma précisément les moralistes furent des maîtres du soupçon, comme je l'ai dit, impitoyablement critiques et prodigieusement inventifs à cet égard. On pourrait montrer notamment qu'avec Montaigne et ses grands successeurs s'ouvre une crise sans précédent quant aux grands exemples que l'on peut donner. On peut appeler ça une crise de l'exemplarité morale, faisant de la lecture un exercice éthique d'un style nouveau. Je voudrais réexaminer de ce point de vue un cas célèbre entre tous, celui des fables de La Fontaine, qui a pourtant été laminé, on peut le dire, très souvent par toute une tradition scolaire qui a considérablement simplifié la morale des fables. Et je voudrais le faire rapidement en abordant les jeux complexes qu'il instaure avec la notion même d'exemplarité. Je voudrais rappeler quelle fut la profondeur souvent déroutante des allégories de la pensée morale dont certaines fables offrent le spectacle. Chaque fable de La Fontaine a ses saisons, ses époques, soit de gloire, soit d'oubli relatif. Chaque fable a ses intermittences quant au degré d'exemplarité que le lecteur est susceptible d'y trouver. Ainsi, au moment où je prononce ces propos, la fable de l'ours et l'amateur de jardin, je ne sais pas si vous vous en souvenez, l'ours et l'amateur des jardins, qui est revenu avec insistance ces derniers temps sur le devant de la scène et dans des contextes bien différents, alors qu'elle dormait, elle sommeillait en attendant son heure. Je vous renvoie au livre récent, qui est un livre important, de Vincent Descombes, du philosophe Vincent Descombes, intitulé précisément « Le raisonnement de l'ours », où cette fable devient soudain un miroir où peut se refléter allégoriquement tout un débat de la philosophie contemporaine relatif au fondement du raisonnement en morale, la valeur du raisonnement en morale. Dans l'acte que l'on réprouve moralement, on ne se résignera pas à exercer son jugement sur le fond d'un relativisme foncier des valeurs. Après tout, même le fanatique, même l'ours de la fable a des raisons pour agir comme il le fait. On fera apparaître en premier lieu, comme le fait La Fontaine, un défaut de raisonnement. Un défaut de raisonnement, en l'occurrence, une prémisse manquante. Et Vincent Descombes montre l'importance de ce type de démarche. Je pourrais citer bien d'autres textes où cette fable refait surface, notamment dans un livre japonais, un très beau roman intitulé « Le pavé de l'ours » de Toshiyuki Horie, que nous avons invité l'année dernière à l'École normale supérieure, pour en parler précisément, où la même fable devient un véritable événement éthique en permettant au narrateur qui suit les traces d'un ami, de prendre conscience du fait qu'il agit un petit peu comme l'ours de la fable, c'est-à-dire qu'en voulant renouer cette amitié, peut-être qu'il est en train de l'écraser, un petit peu comme l'ours, en quelque sorte, en voulant protéger l'amateur des jardins qui fait un somme, en voulant le protéger d'une mouche, lui écrase la tête et le tue. Alors, d'autres fables moins connues attendent encore leur heure, et le potentiel des questionnements qu'elles sont susceptibles de susciter non seulement n'est pas épuisé, mais parfois semble, pour ainsi dire, toujours en attente de nouvelles découvertes, en attente de nouvelles actualisations. Cela ne tient pas seulement au fait que les fables de La Fontaine seraient avant tout des poèmes, et plus seulement des fables, des apologues, où le récit serait entièrement au service de la moralité. Cela tient aussi à toute une série d'opérations subtiles qui affectent de l'intérieur la logique et la rhétorique de la fable, selon La Fontaine, en ses agencements internes. Dans bien des cas, ces opérations conduisent le lecteur attentif à se demander ce que les fables prouvent au juste, moralement et politiquement. Et quel statut il convient d'accorder aux différents régimes de preuves qu'elles semblent proposer ? Dans un des livres qui vient d'être cité, Philosophie de la fable, je m'étais attardé sur les jeux ironiques affectant le lexique même de la preuve dans les fables et de l'inférence. Qu'est-ce qu'on peut inférer de telle ou telle fable ? En les mettant en relation avec certains aspects de la pensée libertine, la grande tradition du libertinage érudit, il apparaît en effet que preuves et inférences dans les fables participent ostensiblement d'une logique elle-même partiellement fictive, où la fable, loin de se présenter comme le redoublement imagé d'une vérité éternelle, exhibe la part de fiction de cette vérité elle-même et des inférences par lesquelles on y parvient. Un côté capricieux dans les fables de La Fontaine, dans la façon d'aborder chaque sujet, avec toujours l'impression que dans ce monde extraordinairement noir, bien peu optimiste, eh bien, la logique elle-même qui fonde le jugement moral est elle-même aléatoire. Voyez, il n'y a pas de critères absolument sûrs permettant, en quelque sorte, à l'allégorie morale de fonctionner dans une sorte de transparence, de plénitude, avec des principes bien affirmés. Il apparaît alors que preuves et inférences, donc, éloignent considérablement du modèle traditionnel de la fable, que l'on trouvait énoncé par Aristote dans le livre 2 de la Rhétorique. Je cite, voilà comment Aristote présentait la fable. comme une variante de ce qu'on appelle un exemple, tout simplement. Un orateur use d'une fable comme d'un exemple, et c'est un exemple fictif qui est parfois qui fonctionne par l'analogie, par le travail de l'analogie. Voilà ce que disait Aristote. Les récits sont de mise dans les harangues, ils ont ce bon côté que trouver des faits analogues à puiser dans le passé est chose difficile, tandis qu'inventer des histoires est chose facile. Car il faut les imaginer comme aussi les paraboles, en veillant à ce que l'on puisse saisir l'analogie, ce qui est facile avec le secours de la philosophie. Et cette définition d'Aristote a servi à toute la théorie de la fable, notamment pendant l'humanisme, la grande période de l'humanisme qui nous rapproche de notre sujet. Au fond, dans les fables des anciens se trouve la sagesse mystérieuse des anciens, et donc par une série d'analogies on va pouvoir y trouver une éducation morale. C'est comme ça que c'était théorisé. Mais avec La Fontaine, c'est beaucoup plus noir, beaucoup plus sombre, beaucoup plus compliqué, beaucoup plus machiavélique aussi, dans le rapport au lecteur, dans le rapport aux puissants qui sont parmi ces lecteurs. Nombreuses sont les fables où La Fontaine souligne tout ce que la preuve par la fable de telle ou telle vérité morale a de variable, de contingent, de chanceux, de précaire, et où, quoi qu'en dise Aristote et toute la philosophie, comme dirait Sganarelle dans Don Juan, le secours de la philosophie ne rend pas vraiment plus facile la portée des analogies dans les fables. Il en résulte un art d'écrire qui conjugue une ironie subtile quant à ce que la fable est censée démontrer et une indétermination chronique quant au degré d'exemplarité que le lecteur pourra y trouver. Faut-il imiter la cigale ou la fourmi ? Rousseau, dans l'Émile, dans la critique qu'il fait de La Fontaine, tout en reconnaissant le génie de La Fontaine, montre très bien qu'on peut très bien avoir envie, quand on est enfant, d'imiter plutôt la cigale, par exemple. La question d'exemplarité est essentielle, quoi que dise la fable. Il y a des fables beaucoup plus perturbantes que cela, où l'enfant a plutôt envie d'imiter le dupeur que le dupé, l'imposteur que sa victime. Voilà, donc la question de l'exemplarité, ici, va bien au-delà des vieux paradigmes humanistes, si l'on veut, qui trouvaient une leçon ferme et profonde dans la matière des fables. Afin de donner un prolongement à ces quelques réflexions que j'avais développées dans ce livre, je voudrais m'attarder ici sur trois cas de figure symptomatiques. L'un où est suggéré, comme c'est souvent le cas, sous la plume de La Fontaine, le caractère impertinent des analogies proposées par la fable et des inférences, des preuves auxquelles elle peut donner lieu. L'autre où se trouve, et donc là j'utiliserai une fable peu connue, qui est l'écrevisse et sa fille. Le second cas de figure, où se trouve mise en lumière, à mon avis, le caractère versatile, voire réversible de certaines fables. Les fables peuvent illustrer le contraire même des valeurs morales et politiques orthodoxes qu'elles semblent a priori défendre. Elles peuvent rendre localement exemplaire ce qu'elles semblent globalement condamner, et vice-versa. Ce qui me permettra, dans un dernier temps, de mettre l'accent, et donc là j'utiliserai une fable qui est aussi, elle aussi, peu connue, le chien qui porte à son cou le dîner de son maître. Ce qui m'amènera à un troisième type de variation caractéristique, en mettant l'accent sur le caractère d'anamorphose de l'exercice de lecture proposé par La Fontaine à ses lecteurs déniaisés. L'anamorphose, vous savez, c'est cette figure qui permet, en se déplaçant, de voir se transformer une figure, par exemple une belle jeune fille en tête de mort, illusion d'optique. Et certaines fables fonctionnent comme cela. À première vue, elles semblent illustrer une morale tout à fait banale, mais si vous lisez attentivement, si vous vous déplacez avec La Fontaine, vous voyez que sous cette morale apparemment humaniste, mais au sens faible du terme, hein, le vrai humanisme, ce n'est pas cela, mais, se cachent souvent des abîmes de noirceur et de cruauté. Et en utilisant une dernière fable, celle-là plus connue, Les Compagnons d'Ulysse, hein, c'est celle qui commence le dernier livre des fables, eh bien, je voudrais montrer donc quelques plis, hein, d'une pensée morale vivant des variations même de l'analogie, des analogies qu'elle propose, et de ce que j'appellerais, pour parodier le titre d'un film de Regrier, les glissements progressifs de l'exemplarité. Glissements progressifs de l'exemplarité qu'elle propose. Est-ce que vous m'entendez bien ? Le son est mauvais ? Alors, comment ? Vous n'entendez rien ? C'est ce que je dis. Bien, alors je vais tenir le micro à la main. Est-ce que vous m'entendez mieux ? Bon. Bien, alors premier cas de figure, donc. Premier type de variation dont je voudrais parler. Qui nous montre, alors là c'est une fable apparemment bénigne, qui nous montre comment, contre le genre humaniste de l'emblème, La Fontaine montre dans la fable des dysfonctionnements internes de l'analogie. Ce que j'appellerais l'analogie de l'emblème au péril de la fable. Et première question que je poserai, faut-il imiter l'écrevisse de cette fable ? Bon, alors j'avais fait un document que vous trouverez sur Internet. Malheureusement, pour des problèmes de clés USB et de matériel, ça n'a pas pu être transféré pour le projeter, hein, au fur et à mesure sur le tableau. C'est les mystères de l'informatique. Alors cette fable commence ainsi. L'écrevisse et sa fille. Les sages, quelquefois, ainsi que l'écrevisse, marchent à reculons, tournent le dos au port. C'est l'art des matelots. C'est aussi l'artifice de ceux qui, pour couvrir quelque puissant effort, envisagent un point directement contraire et font vers ce lieu-là courir leur adversaire. Mon sujet est petit, cet accessoire est grand. Je pourrais l'appliquer à certains conquérants qui tout seuls déconcertent une ligue à 100 têtes. Il s'agit donc de la 10e fable du livre 12. Dans L'écrevisse et sa fille, on assiste aux noces apparemment harmonieuses entre deux genres, celui de la fable et celui de l'emblème. En l'occurrence, l'écrevisse, hein, qui pourrait servir d'emblème aux grands conquérants, et en particulier à Louis XIV, défiant la Ligue d'Augsbourg. Leur complémentarité, hein, de ces deux genres a été consacrée par une tradition millénaire relayée par l'humanisme. Elle fut prolongée par mains illustrateurs des fables. La fable, en l'occurrence, s'inscrit dans la page comme une extension moralisante d'une image, l'image de l'emblème. Donc, comme si vous aviez une illustration, hein, l'écrevisse, et ensuite la morale qui vient en quelque sorte se greffer sur cet emblème. La Fontaine simplement ajoute à cette opération banale un supplément de réflexivité. Dans cette fable, il ne s'agit pas seulement de faire d'un animal, l'écrevisse, l'emblème de toute stratégie rusée, en particulier celle du roi. Savoir marcher à reculons pour attirer l'ennemi et le mettre en mauvaise posture. Il s'agit également, au-delà de l'analogie, insolite déjà par la disproportion qu'elle suggère, hein, comparer Louis XIV à une écrevisse, c'est pas tout à fait ce à quoi il s'attendait, alors que pour Fouquet, vous savez que l'emblème était beaucoup plus gracieux, il s'agissait d'un écureuil. Il s'agit aussi de motiver pour La Fontaine l'analogie en fondant en raison et en nature la pertinence de cette analogie. Un peu plus loin, voilà ce qu'il écrit à propos de Louis XIV. « Ce qu'il n'entreprend pas et ce qu'il entreprend n'est d'abord qu'un secret, puis devient des conquêtes. En vain, l'on a les yeux sur ce qu'il veut cacher. Ce sont arrêts du sort qu'on ne peut empêcher. Le torrent, à la fin, devient insurmontable. Cent dieux sont impuissants contre un seul Jupiter. Louis et le destin me semblent de concert entraîner l'univers. » Venons à notre fable. Or, cette démarche de motivation de l'analogie, très vite, tourne mal. La Fontaine affiche l'impertinence de l'analogie sur laquelle est bâtie la fable. Voilà quel est le récit. Mère écrevisse, un jour, à sa fille, disait « Comme tu vas, bon Dieu, ne peux-tu marcher droit ?» Et comme vous allez vous-même, dit la fille, puis-je autrement marcher que ne fait ma famille? Veut-on que j'aille droit quand on y va tordu? On assiste alors à une série de glissements progressifs de l'exemplarité de l'emblème, ce qui va provoquer une cascade de petites surprises et de gros paradoxes pour le lecteur. Premier point, l'écrevisse mère, dont on aurait pu attendre une plus grande sagesse, croit marcher droit, alors qu'elle marche de travers. Et elle donne cette prescription à sa fille, bien loin d'illustrer la sagesse stratégique louée chez le roi. Deuxième point, l'écrevisse-fille dévoile à sa mère sa propre illusion en lui montrant qu'elle ne donne pas le bon exemple, puisqu'en marchant droit, elle ne donne pas le bon exemple. Cependant, c'est mon troisième point, ce redressement optique de l'illusion, comme c'est souvent le cas dans les fables, n'est pas total, c'est-à-dire qu'il ne conduit nullement à rétablir la pertinence de l'emblème. Pourquoi ? Parce que c'est tout simplement, nous dit La Fontaine, par nature que les écrevisses marchent de travers, et non par sagesse et par décision. Et cela depuis la nuit des temps. En quelques vers, donc, est mis en scène un gonflement puis un dégonflement de l'emblème par variations successives sur ses degrés d'exemplarité. Quatrième point, tant et si bien que c'est par un coup de force logique du fabuliste que s'opère le retour à l'emblème initial, allant de pair avec le programme qui consistait à louer Louis, roi de guerre par excellence, programme qui semble ennuyer La Fontaine. C'est toujours avec beaucoup d'ennui qu'il fait l'éloge de Louis XIV. Donc il s'amuse comme il peut, ici, en le comparant à une écrevisse. Autrement dit, dans l'écrevisse et sa fille, se juxtaposent ainsi donc trois régimes d'exemplarité. En premier lieu, se met en place une exemplarité emphatique, celle des sages, des grands stratèges, celle de Louis XIV, dont l'art du secret, en politique comme à la guerre, est devenu un lieu commun. En second lieu, dans l'apologue, dans la fable repris d'Ésope, le lecteur est en présence d'une exemplarité d'un autre ordre, une exemplarité, j'irais dire, quasi nulle. Si on la met en rapport avec la première, celle de la fille de l'écrevisse, elle marche de travers parce qu'elle ne peut pas faire autrement. Aucune stratégie ici, aucun art de la dissimulation, aucun machiavélisme, mais la nature, j'allais dire, bête et méchante. La permanence d'un caractère donné par elle, marcher à reculons, quelles que soient les illusions par lesquelles on croit devoir ou pouvoir s'en émanciper. En troisième lieu, s'opère dans la moralité finale un retour obstiné au premier régime d'exemplarité, mais ce retour est assez curieux, bien moins claironnant que dans le prologue de la fable. Il réserve à la morale de la fable un statut problématique, l'exemple étant tantôt bon, tantôt mauvais, selon les cas. Elle avait raison, voilà comment conclut La Fontaine, elle avait raison, donc la fille de l'écrevisse, la vertu de tout exemple domestique est universelle et s'applique en bien, en mal, en tout. Fait des sages, des sots, beaucoup plus de ceci. Donc la fable est vidée, en quelque sorte, de l'intérieur, hein, de toute pertinence fondamentale en ce qui concerne l'analogie. Ce qui donne un caractère ouvertement aléatoire à la devise qui semblait orienter l'éloge du roi et la fable tout entière en prétendant la rendre exemplaire aux yeux de l'univers entier. Et on a affaire ici à ce que j'appellerais une exemplarité aléatoire qui peut entrer en résonance avec les jeux sur la valeur morale de l'exemple auquel La Fontaine se livre si souvent, notamment dans les contes. Ainsi, au début du conte L'Abbesse, qui commence ainsi, « L'exemple sert, l'exemple nuit aussi. Débrouillez-vous avec mes exemples. » Et le lecteur a de bonnes raisons de s'interroger sur la stratégie obscure du fabuliste, sur la démarche d'écrevisse de la fable elle-même, ce que j'appellerais la démarche d'écrevisse de la fable elle-même, dont la moralité s'élabore à reculons, ironiquement. Et le lecteur peut faire rétroactivement planer bien des incertitudes sur les principes militaires de Louis XIV lui-même, sur son art de la guerre. Susciter des questions déplaisantes comme celle-ci, par exemple. Cette démarche à reculons est-elle pour Louis XIV un choix délibéré ou bien est-elle dictée par sa nature? Comme c'est le cas de l'écrevisse, il ne peut pas faire autrement que d'être tordu, Louis XIV, et dissimulateur. Imposé à lui par son naturel retors. Et ce retrait militaire est-il choisi ou est-il forcé? Parce qu'on sait que ça se passait plutôt mal à ce moment-là pour les armées de Louis face à la Ligue d'Augsbourg. On pense alors à ces délices de l'incertitude associées à la démarche de l'écrevisse, bien plus tard, par Guillaume Apollinaire. Incertitude, ô mes délices, vous et moi, nous nous en allons, comme s'en vont les écrevisses, à reculons, à reculons. Bref, la disproportion entre l'éloge du roi et l'humble apologue, l'humble fable animalière, l'hétérogénéité du propos, l'effet de déplacement et d'indétermination que la fable fait subir en chemin à la notion même d'exemplarité, notion même d'exemple, sont autant d'indices d'ironie, ironie dont il est cependant difficile de mesurer la portée exacte et de décrypter le message moral et politique qu'elle dissimulerait en l'occurrence. L'ironie de l'art d'écrire, de Jean de La Fontaine, avance elle aussi comme l'écrevisse, à reculons, à reculons. Donc je crois qu'il serait périlleux de faire de La Fontaine un donneur de leçons, si vous voulez, proposant des exemples à suivre. Il faut toujours être très très vigilant dans la plupart des fables, et on s'éloigne vraiment des paradigmes, disons, classiques ou même humanistes de la fable, qui n'admettaient pas tellement ce type de procédure ambiguë. Ce qui m'amène à un deuxième type de variation. Est-ce que vous m'entendez mieux ? Ce qui m'amène à un deuxième type de variation caractéristique, après les dysfonctionnements internes de l'analogie, je vais parler d'un cas de figure où il y en a un certain nombre, où il y a indétermination quant à la portée éthique et politique de l'analogie. Indétermination quant à sa portée éthique et politique. Donc après, faut-il imiter l'écrevisse? Quand convient-il de se servir comme un chien? Voilà la question que je vais poser. Quand convient-il de se servir comme un chien pour entrer dans ce second type d'analogie animale? Je voudrais donc passer de l'écrevisse au chien, ou du moins à un certain chien, non pas celui, non pas le chien très célèbre qui lâche la proie pour l'ombre, c'est la fable 17 du livre 6, mais le chien beaucoup plus réaliste et machiavélique qui porte à son cou le dîner de son maître, c'est la fable 7 du livre 8. Donc je vous recommande vraiment la lecture. Ici encore, la fable, par le jeu des analogies, met en question sa propre exemplarité. Elle met en question ce qu'elle est censée prouver. Elle rend cette exemplarité moralement et politiquement problématique. Soit un premier régime de l'exemplarité, de quoi s'agit-il dans cette fable ? Un chien tempérant, plus tempérant même que les hommes. Vers 5 à 12, donc, de cette fable, certains chiens qui portaient la pitance au logis s'étaient fait un collier du dîner de son maître. Il était tempérant plus qu'il n'eût voulu l'être quand il voyait un mets exquis. Mais enfin, ils l'étaient tous tant que nous sommes. Nous nous laissons tenter à l'approche des biens, chose étrange. On apprend la tempérance aux chiens et l'on ne peut l'apprendre aux hommes. Cette fable commence par un éloge paradoxal de l'animal contre les vices incurables des hommes. De quoi s'agit-il d'abord ? D'un cas parmi tant d'autres d'habileté, d'intelligence animale. On disait « solertia animalium », l'intelligence animale, l'habileté animale. Et aussi la vertu dont les animaux sont capables. Ici, la tempérance. À la manière de ce que faisait Plutarque dans un traité célèbre intitulé « Que les bêtes usent de raison ». Ce traité faisait la part belle à la tempérance des animaux supérieure à celle des hommes. Les animaux vont dans moins d'excès, en quelque sorte, que les hommes. En quoi consiste le paradoxe de cet éloge animal ? Eh bien, en ce que ce chien semble aussi devoir être loué, non seulement d'être tempérant, mais aussi, deuxième temps de la fable, d'avoir su renoncer aux principes qui guidaient sa sagesse de bon chien fidèle dans des circonstances particulières. Il a su ne pas être tempérant dans des circonstances particulières. Que se passe-t-il ? Eh bien, il est attaqué, il rentre avec la viande de son maître, il est attaqué par une meute de dogues vivant sur le commun, dit La Fontaine, donc il s'agit de chiens des rues, et il se résigne à ne plus défendre la viande de son maître, mais à prendre sa part au gâteau, je cite, « prendre sa part au gâteau, tout en faisant la théorie de ce choix rationnel, tout en rationalisant ce choix. » Je vous lis les vers suivants. « Un matin passe et veut lui prendre le dîner. Il n'en eut pas toute la joie qu'il espérait d'abord. Le chien mit bas la proie pour la défendre mieux n'en étant plus chargé. Grand combat. D'autres chiens arrivent. Ils étaient de ceux-là qui vivent sur le public et craignent peu les coups. Notre chien, se voyant trop faible contre tous, et que la chair courait un danger manifeste, voulut avoir sa part. Et lui, sage, il leur dit « Point de courroux, messieurs, mon lopin me suffit. Faites votre profit du reste. » À ces mots, le premier, il vous happe un morceau, et chacun de tirer, le matin, la canaille, à qui mieux mieux, ils firent tous ripaille. Chacun d'eux eut sa part au gâteau. Voilà donc un deuxième état de l'exemplarité incitant apparemment le lecteur non plus seulement à imiter la vertu du chien, mais également sa capacité à y renoncer de la manière la plus cynique en certaines circonstances. À l'horizon, il y a la vieille question des rapports entre l'utile et l'honnête, dont il serait très intéressant, mais je n'en ai pas le temps, de suivre les méandres depuis Michel de Montaigne. Vous savez qu'il y a un grand essai de Montaigne intitulé « L'utile et l'honnête », de l'utile et de l'honnête. C'est un des grands thèmes aussi de la réflexion libertine, est sceptique. Qu'est-ce qui fait que l'honnêteté doit viser l'utilité et vice-versa. Puis, pour finir, un troisième régime d'exemplarité dans la même fable, entièrement négatif celui-là, un exemple à ne pas suivre apparemment, induit par l'analogie, donc toujours le travail de l'analogie, entre cette situation et une ville dont les deniers sont à la merci de véritables chiens humains. Une ville corrompue. Dans quelles conditions serait-il légitime de les imiter ? La prudence peut-elle conduire honnêtement à voler et dévorer le bien d'autrui quand voleurs et dévorateurs ont toujours le dessus ? Voilà la fin de la fable. Je crois voir en ceci l'image d'une ville où l'on met les deniers à la merci des gens. Échevin, prévôt des marchands, tout fait sa main, le plus habile, donne aux autres l'exemple. Vous voyez toujours le recours ironique au terme d'exemple. Et c'est un passe-temps de leur voir nettoyer un monceau de pistoles. Si quelque scrupuleux, par des raisons frivoles, veut défendre l'argent et dit le moindre mot, on lui fait voir qu'il est un sot. Il n'a pas de peine à se rendre, c'est bientôt le premier à prendre. En réalité, et c'est là que je crois l'analyse peut devenir très intéressante, La Fontaine dialogue ici avec un traité de philosophie qu'il connaissait, un traité sceptique de Samuel Sorbière, qui était un des grands libertins érudits, ami de Pierre Gassendi, vous savez, le grand philosophe épicurien que La Fontaine connaissait très bien, éditeur de Gassendi, mais aussi traducteur de Hobbes, du grand philosophe Hobbes. Et il serait passionnant de montrer comment le genre de la fable selon La Fontaine se mesure à celui du traité philosophique après avoir vu comment il pouvait subvertir celui de l'emblème. Vous voyez le rapport complexe au genre. Apparemment, cette fable de La Fontaine n'ajoute rien à ce que nous disait Samuel Sorbière dans un traité intitulé « Discours sceptique à Monsieur de Marolles, abbé de Villeloin », où les raisons d'une fausse prudence lui sont proposées à réfuter. Alors il raconte un épisode qui s'est produit à Londres, l'épisode du chien, du marchand français à Londres, qui finit par se résigner. Et voilà comment se termine le récit, que La Fontaine a repris, raisonnant sans doute de cette sorte que puisque son maître avait à perdre sa provision, le mieux qu'il pouvait faire était d'en prendre sa part et tout au moins de lui épargner un repas. Vous voyez donc une raison morale, au fond, si je prends ma part parce que je ne peux pas faire autrement, ça épargnera à mon maître de me donner un repas. Bon, légitimation morale qui disparaît dans la fable de La Fontaine. Sorbière ajoutait à ce récit la moralité suivante. De cette petite histoire qu'Ésope ni la franchise d'Auguste n'aurait pas désavoué, oserons-nous inférer que notre homme prudent ne se feindra point à faire son devoir toutes les fois que les finances publiques seront à l'abandon et qu'il aura moyen d'appliquer en sa personne à l'usage d'un honnête homme ce qui tomberait entre les mains d'un maraud s'il ne prenait soin de le retirer et le mettre en de meilleures mains. Cette inférence ostensiblement audacieuse, oserons-nous inférer, était elle-même immédiatement reliée, chez Sorbière, à une véritable casuistique utilitariste, qui trouvait sa caution en Cicéron, selon lequel c'est la loi de nature qui décide du transfert des biens nécessaires à la vie des mains de l'homme inactif et inutile à celles de l'homme sage, bon et courageux, qui, s'il eût péri, eût beaucoup compromis l'intérêt de l'État. Donc il est normal l'homme sage, bon et généreux, dans l'intérêt de l'État, se serve en cas de déroute, plutôt que tout cela bénéficie uniquement aux gens inactifs et improductifs. Pourvu, disait Cicéron, que l'intention soit toujours dirigée à ce but, l'intérêt général, et qu'on ne se propose point le tort et l'injustice. Une lecture attentive de l'essai de Sorbière, avec lequel La Fontaine dialogue silencieusement dans cette fable, permettrait de mieux faire apparaître en surimpression toute une gamme de questions éthiques et politiques que le lecteur déniaisé, comme on disait alors, pouvait poser à la fable de La Fontaine et que La Fontaine ne pouvait pas ignorer. Première question. Qu'en est-il de la prudence et de la sagesse dans un état où tout est en désordre et où la perversion des mœurs est générale? Sorbière, s'employant à tracer des lignes de séparation entre prudence et sagesse et à dégager des cas où l'une condamne ce que l'autre approuve. Deuxième question, redoublant la première, mais plus générale, qu'en est-il des rapports entre le particulier et le public? Entre l'intérêt de l'individu et le souci du bien commun, entre la morale du dedans et les apparences du dehors, dans un contexte où toute morale communautaire entre en crise et où le calcul immanent des utilités et des plaisirs doit primer sur tout principe transcendant. Ça, c'est une grande question de philosophie morale. Question qui, dans le petit dispositif théorique de Sorbière, s'articulait à 5 références majeures. Premièrement, Aristote, pour sa distinction entre sagesse, la sagesse définie comme science des choses fort honorables, et la prudence, définie comme département des choses utiles à la vie, distinction entre sagesse et prudence. Cette opposition permettant un peu plus loin de justifier l'injustice en certaines circonstances, différence entre justice et, entre sagesse et prudence. Platon, deuxième référence, pour sa théorie du mensonge utile dans la République. Pourquoi refuser aux particuliers ce que l'on accorde au public, au gouvernement, selon Platon et tant d'autres? En effet, on ne dispute point au public cette permission de mal faire, de mentir, de dissimuler, de feindre, de tromper ce que l'on gouverne. Et Platon enseigne au 5e livre de la République qu'un homme de commandement doit souvent mentir et décevoir pour le bien et l'utilité des sujets. Alors pourquoi refuser à l'individu ce qu'on accorde au gouvernant, la raison d'État? Sorbière citant ce passage de la République, « Il me semble que les magistrats seront obligés de recourir souvent au mensonge et à la fraude dans l'intérêt de leurs subordonnés. » Troisième référence, évidemment, Hobbes, dont Sorbière est le grand traducteur, le diffuseur, qui apparaît moins ici, Hobbes, comme un théoricien de l'ordre politique fondé sur le contrat, que comme un moraliste insistant sur la fragilité du pacte, la fragilité du pacte qui nous lie en société, et la possibilité toujours ouverte d'un retour à l'état de nature, d'un retour à l'état de nature, à l'intérieur de l'état de droit. Il y a des moments où la corruption est telle que la nature reprend le dessus, sur tous les pactes sociaux et politiques qu'on a pu passer pour vivre ensemble. Ce qui nous rapproche de La Fontaine. De quoi parle la fable de La Fontaine en politique? Eh bien, essentiellement de cela, du retour constant de l'état de nature à l'intérieur de l'état de droit. Il y a des lois et ces lois sont sans cesse brisées par les mangeurs et les mangés, si vous voulez. Les hommes ne sont sortis de l'état de nature que M. Hobbes a démontré être celui d'une guerre perpétuelle que pour vivre en paix et plus commodément. Mais lorsque sous celui de l'Empire, ils ne rencontrent pas la fin qu'ils s'étaient proposée, ils retournent quelquefois d'un commun accord dans le précédent, où toute chose était permise, où les distinctions du bien et du mal n'étaient pas encore enseignées, et où chacun avait droit de se faire justice. Donc, vous voyez, la fable, en quelque sorte, c'est par-delà le bien et le mal, ou en deçà du bien et du mal. C'est la guerre. La déclaration de la guerre n'est donc autre chose que le retour par une commune délibération dans la liberté naturelle, et cela à l'égard d'une autre société qui s'est déjà départie de l'état de gouvernement. C'est pourquoi tout est permis en cette occasion. Autre autorité convoquée, cinquième autorité convoquée, ouvrant la problématique où s'inscrira la fable, exemplaire du chien de Londres, Sénèque. Sénèque qui intervient ici après Tacite. Sénèque qui parle, je cite, De cette sorte, dans un fragment de la retraite du sage, si l'État est tellement corrompu qu'il est impossible d'y apporter aucun remède, si les méchants se sont emparés de toute la puissance, le sage ne s'heurtera pas en vain à le réformer et ne perdra pas sa peine à un travail inutile s'il ne se sent pas assez de force. Citation qui intervient juste avant la fable du chien qu'utilise La Fontaine. Bref, dans l'argumentation morale de Sorbière, on assiste véritablement autour de cette fable à ce qu'on appellerait une expérience de pensée. C'est-à-dire, imaginons des conditions d'expérience où il n'y a plus que corruption, où il n'y a plus que la corruption qui règle. Alors, vaut-il mieux prendre sa part au gâteau ou bien rester vertueux ? Hein, voilà une expérience de pensée en morale. Et les conditions initiales de l'expérience de pensée induite par la fable supposent que on se situe dans des temps fâcheux, je cite, le modèle théorique implicite restant celui de la guerre, selon Hobbes, impliquant une sorte de retour à l'état de nature. En l'état que l'on suppose, il y a une espèce de liberté naturelle tacitement rétablie. Modèle qui subit un déplacement analogique sur la scène morale, la guerre, je cite, est comme déclarée aux vertus et les vertus ont droit de se saisir des armes des vices. Faisons maintenant retour à la fable de La Fontaine. En est-il vraiment ainsi dans la fable de La Fontaine ? Une confrontation avec le texte de Sorbière permet, à mon sens, de mieux mesurer ce que j'appellerais l'effet de perplexité morale qu'une telle fable pouvait produire chez les lecteurs. Cette perplexité est, pour ainsi dire, démultipliée par le travail final de l'analogie, toujours cette question de l'analogie, qui semble réduire les enjeux politiques et éthiques de l'apologue à une satire assez conventionnelle des finances dans la société d'Ancien Régime, qui, comme on sait, était corrompue. En ce décalage entre la portée très large du questionnement et la réduction à un lieu commun du discours moral, satire de la corruption du système financier, peut se déployer une fois de plus toute l'ironie d'un art d'écrire. Qui assurera que le lecteur ne sera pas naturellement tenté d'appliquer cette préférence de l'intérêt particulier au bien commun à toutes sortes de situations ? La Fontaine ne donnant ici aucun paradigme stable permettant de discriminer les cas ou l'exemple de ce chien sert, les cas où l'exemple du chien nuit, pour reprendre les mots du comte Labesse. Dans l'analogie finale, je crois voir, etc., ne faudrait-il voir précisément qu'une leçon de résignation au désordre à l'intérieur de l'ordre, comme c'est le cas, par exemple, dans la fable plus connue, le renard, les mouches et le hérisson, dont la source avait été convoquée par Aristote comme l'exemple même de la rhétorique de l'analogie que la fable pouvait offrir à l'orateur. Donc, résignation, une morale de la résignation. On a souvent dit ça de La Fontaine, au désordre. Mais à l'intérieur de quel ordre qui, par sa corruption générale, légitimerait ce retour à la liberté ? Faut-il se servir comme un chien ? Faut-il prendre sa part au gâteau ? La question de l'exemplarité morale et politique, imiter le chien ou non, se pose aussi implicitement en termes de seuil et de compensation. À partir de quel seuil de désordre est-il légitime, au nom de la prudence, de participer à la corruption générale en se comportant comme le chien de la fable ? Et au nom de quelle compensation le ferait-on alors ? Et je remarque qu'aucune des compensations invoquées par Sorbière ne semble clairement opérante chez La Fontaine. Intérêt supérieur de l'État, souci du bien public, conjugué avec celui des particuliers. Démarche d'écrevisse, une fois de plus, de l'ironie, dissimulant la possible portée du questionnement moral derrière une satire banale du système financier. Ironie dont l'effet de désorientation n'est cependant en rien amoindri. par la dissimulation qu'elle opère. Car la question subsiste, au-delà et en deçà de l'analogie finale, le chien de la fable est-il, oui ou non, pour nous exemplaire, moralement et politiquement ? À quelle distance faut-il se tenir de ce petit modèle de cynisme ? Eh bien, je répondrai comme Pascal, ni trop près, ni trop loin, devinez. Ce qui m'amène pour finir à un dernier exemple, avec une dernière fable, donc, faut-il imiter les compagnons d'Ulysse ? Faut-il imiter les compagnons d'Ulysse ? Troisième type de variation, ce que j'appellerais donc les anamorphoses liées à l'instabilité de l'analogie, à l'instabilité du discours analogique dans les fables. Faut-il imiter les compagnons d'Ulysse, hein, et ce qu'on peut traduire aussi par « En quel sens l'animal peut-il être encore pour l'homme civilisé un miroir de la nature ?» comme disaient les épicuriens selon Cicéron. Un miroir de la nature. Bien, alors vous connaissez la fable des compagnons d'Ulysse, mais l'épisode de l'Odyssée. Il s'agit donc de cet épisode où les compagnons d'Ulysse sont métamorphosés par Circé en pourceaux. Dans la fable de La Fontaine, ils sont métamorphosés en plusieurs types d'animaux, ours, loup, pourceaux, etc. Mais Ulysse obtient de Circé la possibilité de les persuader de redevenir hommes. Et aucun n'accepte. Aucun n'accepte. Et alors, pourquoi ? Eh bien, chacun va faire une attaque en règle de l'humanité, au nom de la liberté qu'il a trouvée en devenant animal. Alors, ça n'a l'air de rien, mais cette fable se finit, en théorie, sur un échec d'Ulysse à les persuader que l'humanité est supérieure à l'animalité. Ce qui nous amène encore au plus près de notre thème. Quel humanisme ? De quel humanisme parlons-nous ? Je dirais simplement que il y a à l'époque, au moment où La Fontaine écrit, toute une problématique libertine, justement, qui trouve dans l'épicurisme une philosophie de l'animalité. Justement, l'animal, pour les épicuriens, c'est ce qui nous rappelle ce que sont des désirs naturels et nécessaires, contre l'aliénation de la vie sociale, qui veut toujours plus, qui porte à la violence, qui porte à la démesure. Je vous cite un passage d'un très très beau texte de La Fontaine, le poème du Quinquennat, où il dit « Les muses m'ont appris que l'enfance du monde, simple, sans passion, en désir inféconde, vivant de peu, sans luxe, évitait les douleurs. Nous n'avions pas en nous la source des malheurs qui nous font aujourd'hui la guerre. Le ciel n'exigeait alors nul tribut de la terre. L'homme ignorait les dieux qu'il n'apprend qu'au besoin. L'homme ignorait les dieux qu'il n'apprend qu'au besoin, etc. » Et dans bien des fables, il arrive à La Fontaine de flirter avec cet usage primitiviste du motif du retour à l'animalité comme miroir de la nature originaire. Mais c'est de manière compliqué, interrogative, énigmatique même. La fable, en pareil cas, se garde en bien de nous livrer une exemplarité stable et forte, un modèle de leçon morale qui serait lié au thème animal. La fable se garde en bien de prouver quoi que ce soit de manière claire et distincte, comme dirait Descartes, en ce qui concerne les vertus du vivre selon la nature. Ainsi, lorsqu'il écrit « Les compagnons d'Ulysse », La Fontaine ne peut ignorer les idées accessoires liées à la réception de cette fable transmise de siècle en siècle. Et parmi elles, toute une conception primitiviste du plaisir où un certain héritage de l'épicurisme a eu sa part, à travers Plutarque notamment, qui avait utilisé cette fable. Les compagnons d'Ulysse, métamorphosés en bêtes, refusant obstinément de redevenir homme, n'aurait-il pas découvert, tout simplement, ce que c'est que suivre la nature. La Fontaine, dans sa propre fable, multiplie les revendications animales des compagnons d'Ulysse, et il semble d'abord aller dans le sens de Plutarque en diffractant sur un mode polyphonique la critique des passions humaines que l'on trouvait donc chez Plutarque, dans le traité « Que les bêtes brutes usent de raison », où Plutarque utilisait cette fable des compagnons d'Ulysse. Liberté de la vie animale contre la servitude de l'état de société, c'est le discours du lion. Critique des illusions de l'anthropocentrisme et de l'anthropomorphisme, l'homme qui voit partout sa supériorité, c'est le discours de l'ours. Critique de l'homme, loup pour l'homme, comme disait Hobbes. L'homme est un loup pour l'homme bien plus que le loup. Lui-même, et c'est le discours du loup, ne vous êtes-vous pas l'un à l'autre des loups ? Et comme chez Plutarque, la fable s'achève sur un échec rhétorique d'Ulysse, impuissant à persuader les brutes de redevenir des hommes, et réduit au silence par ces voix de la nature qui ont désormais investi les figures de ses anciens compagnons. Chacun répétant, il y a un refrain, au terme de leur réponse respective, « Je ne veux point changer d'état ». Mais tout à coup, arrive une moralité tout à fait étonnante de La Fontaine qui va relativiser ces réquisitoires en faveur de la liberté animale contre la civilisation humaine. En 5 vers se produit ce choc entre le récit et la morale. La liberté, les bois, suivre leur appétit, c'était leur délice suprême. Tous renoncer au lot, c'est-à-dire à la louange, des belles actions. Ils croyaient s'affranchir suivant leur passion. Ils étaient esclaves d'eux-mêmes. Ils étaient esclaves d'eux-mêmes. En réalité, ici, par une étrange déviation de dernière heure, de dernière minute, deux lignes de force de l'analogie interfèrent brutalement. Celle philosophique et épicurienne de l'animal miroir de la nature, speculum naturae, reflétant en ses plaisirs ce que veut la nature. Celle esthétique, sémiotique, de l'animal miroir, mais en un tout autre sens, l'animal, comme dans toutes les fables, est un miroir critique, reflétant non ce que veut la nature, mais ce qu'est l'homme. Dans les fables, l'animal est là pour représenter l'homme, esclave de ses passions. Et on a l'impression qu'en ce vers, ce télescope, ces deux types d'analogies qui sont divergentes en réalité. Bref, tout se passe comme si entre le corps et l'âme de la fable, comme disait La Fontaine, son récit et sa moralité, cette seconde ligne de force critique l'emportait brusquement sur celle primitiviste, épicurienne, qui semblait triompher au cœur de l'apologue. Et le miroir naturaliste de l'animal se brise contre le miroir critique en un éclat de rire. À travers l'animal, l'image d'une nature vraie et d'un plaisir innocent semblait transparaître, mais par un ultime tour d'écrou de la fable, comme dirait Maurice Blanchot, il apparaît que ce retour à la liberté des origines n'était peut-être en définitive qu'esclavage et aliénation. Ils étaient esclaves d'eux-mêmes. Et que ce qui est allégorisé ici, c'est peut-être surtout une illusion constitutive des hommes eux-mêmes qui consiste parfois à croire vivre selon la nature, librement. Alors cette déviation a intrigué les commentateurs, ainsi Pierre Boutan, le philosophe Pierre Boutan, qui disait « Parvenu à ce point de la fable, des compagnons, la fable des compagnons bifurque, s'égare. Pourquoi ? Peut-être sa misanthropie est-elle intenable ? Le poète, avec Ulysse, donne tort aux trois bêtes si convaincantes. Leurs réponses diverses, mais de même conclusion, il les suppose cohérentes et compatibles. Le jugement final est un peu trop homme de bien. Il n'est pas du tout certain, à mon sens, que, comme le disait Pierre Boutan, La Fontaine s'égare en sa propre fable. Je crois qu'il faut se méfier de ce genre d'interprétation. Quand ce jugement final, il redevienne un peu trop homme de bien. Que ce soit là une sorte de retour en arrière un peu trop sage de La Fontaine vers l'humanité, masquant ce que l'apologue avait de philosophiquement corrosif. De ce sens primitiviste si longuement développé dans les diatribes des animaux contre les hommes, il leur restera sans doute quelque chose en surimpression dans la mémoire du lecteur. Mais aussi, dans l'effet de la fable, quel lecteur au monde sera-t-il jamais assuré, lorsqu'il proférera semblable vérité sur les plaisirs selon la nature, de ne pas y être poussé, à l'image des compagnons d'Ulysse, métamorphosés en bêtes, par un désir trompeur, par quelque vaine chimère. Pour conclure, deux types de remarques. Premier point, j'insisterai sur le caractère interrogatif de cet usage rhétorique et politique des analogies chez La Fontaine, qui ne peut être interprété seulement comme un art d'écrire, au sens où le philosophe Léo Strauss utilisait ce concept d'art d'écrire, c'est-à-dire un art de la prudence pour dissimuler une vérité hétérodoxe, une thèse hétérodoxe. Pareil usage de la fable est assez proche, à mon sens, des pouvoirs expérimentaux d'un genre que l'humanisme avait redécouvert puissamment, mais que le libertinage avait beaucoup utilisé, la déclamation, qui consistait à se mettre à la place de telle et telle figure pour argumenter à sa place. Imaginez que vous êtes dans telle situation, eh bien, déployez une argumentation. La déclamation, par exemple l'éloge de la folie d'Érasme, qui est un des grands textes humanistes, mais précisément éminemment paradoxal, le contraire de ce que Nietzsche appelle la moraline, si vous m'avez entendu au début où le micro ne marchait pas bien, eh bien la déclamation a ceci de particulier qu'elle se situe au-delà d'une logique binaire du oui et du non. Elle fait entendre des voix non concordantes qui donnent à penser et qui font de la pensée morale par fable un perpétuel exercice sans que l'on puisse décider une fois pour toutes ce que la fable prouve en dernière instance, sans que l'on puisse décider une fois pour toutes où réside son exemplarité ultime. En ce sens, la fable a le pouvoir de parasiter plusieurs thèses morales philosophiquement possibles, on l'a vu avec le dialogue avec Samuel Sorbière, en une magnifique hypocrisie. Si l'on donne au terme hypocrisie la valeur que lui attribuait Michel Serres dans son livre intitulé précisément « Le parasite », hypocrisie, cela signifie sous-détermination, ce qui est en dessous de la décision, ce qui grouille sous la décision, en quelque sorte. Deuxième type de remarque, pour les grands moralistes héritiers de Montaigne et des libertins érudits, comme La Fontaine, il n'y a pas d'un côté un humanisme des essences, de l'idéal, de l'universel, de l'intemporel, et de l'autre un relativisme sceptique, voire cynique, ironisant à l'infini sur les fictions et les impostures de l'idéal, de l'universel, de l'intemporel. Je crois que cette opposition-là est dépassée dans ce type de texte. Faire l'homme, comme disait Montaigne, c'est cultiver un jardin imparfait, un jardin à jamais imparfait. C'est une très belle métaphore que l'on trouve chez Montaigne. Et à la question qui nous réunit aujourd'hui, en quoi ce type de littérature et son enseignement peut-il aider à redéfinir un humanisme partant de crises et de soupçons, hein, sur ce qui fonde la communauté des valeurs. On pourra commencer, me semble-t-il, par répondre ceci, en fournissant matière à une pensée toujours questionnante quant à ses propres fondements et ses propres limites, quant à la multiplicité des relations et des analogies possibles dont chaque expérience morale est tributaire, sans jamais résulter d'une seule ligne démonstrative. Une pensée qui ironise sur les dogmatismes de toute farine, fussent-ils d'inspiration humaniste, mais une pensée où tout ne se vaut pas, loin de là. Contre les valeurs toutes faites de la moraline, où Nietzsche l'entendait, il importe de cultiver, en réponse à cet art d'écrire prodigieux, un art de lire comme art de la mise en relation d'un essai à l'autre, d'une fable à l'autre. Je vous remercie.
Nous allons passer aux questions. S'il y en a, non.
Je n'ai pas mis le son. Ce n'est pas moi, tout le monde autour de moi, je disais.
Mais ma voix. Madame, moi j'étais là. J'entendais très bien. Alors aussi, il y a une question d'âge,
monsieur.
Non. Ce n'est pas moi, j'entendais, mais tous les gens autour de moi.
Sur la gauche.
Merci. Bonsoir, monsieur Darmon. Merci beaucoup pour votre exposé qui était très clair, très illustré. Et pardonnez-moi d'avance du caractère moral que va prendre ma question, mais c'est un petit peu le risque quand on parle justement de moralité. Mais vous avez évoqué donc la morale de la résignation dans laquelle se situait Jean de La Fontaine et par laquelle il fallait prendre une sorte de position intermédiaire, une position prudente. Mais précisément, ne faut-il pas user d'autant plus de l'impératif catégorique et des morales systématiques développées et défendues par les Lumières dans un système qui est d'autant plus corrompu? Le risque n'est-il pas avec la fable justement de légitimer des abus qui pourraient devenir dangereux dans une situation fort dégradée? Je pense notamment à ce que disait Sartre quand il disait que la France n'avait jamais été aussi libre que pendant l'occupation, car elle pouvait justement user d'autant plus de cet impératif moral. Voilà, je vous remercie, j'espère que j'ai été clair.
Oui, alors c'est une excellente question. Alors je dirais que les fables de La Fontaine, d'abord, viennent bien avant Kant. Et les fables de La Fontaine viennent au terme d'une crise sceptique sans précédent, sans laquelle Kant n'aurait pas vu le jour. Parce que, d'une certaine manière, Kant est l'héritier aussi hein, de cette grande mise en question des morales dogmatiques qui précédaient, hein, c'est-à-dire celles qui fondaient la morale sur une théologie ou sur une cosmogonie, si vous voulez, une cosmologie. Bon, alors ça, c'est une réponse ça de style historique. Deuxième chose, les morales dont vous parlez, les morales des Lumières, sont tout à fait compatibles avec des mises en récit et des expérimentations morales. Je crois que au moment des Lumières, des auteurs en particulier comme Diderot sont des grands continuateurs de La Fontaine. Vous savez que Diderot rendait un culte à La Fontaine. Il y a un très beau poème en prose hein, où il dit à La Fontaine qu'il allait honorer chaque année hein, sa tombe. L'idée que la morale doit passer par un récit, hein, qui est un thème très contemporain, n'est pas, antagoniste avec l'idée d'une morale, en quelque sorte, basé sur de grands idéaux, mais la nécessité de la mise en intrigue, de la mise en récit, de la mise en situation de la pensée morale est un élément vital, je crois, aujourd'hui pour le discours moral lui-même. Les philosophes américains dont je parlais tout à l'heure, hein, comme Martha Nussbaum, outre-Atlantique, mettent l'accent sur ce vieux thème, hein, que la philosophie, souvent, hein, et Nietzsche a insisté sur ce plan-là, a des exemples trop pauvres, elle n'a pas assez d'exemples. Vous parliez de Kant, on a beaucoup écrit sur les exemples de Kant, les Saint-Thalers, choses comme ça, qui sont des modalisations, et on pourrait en dire autant de la philosophie analytique aujourd'hui en matière de morale, les exemples sont beaucoup trop simples. Et je crois qu'une littérature comme celle de La Fontaine, et le livre de Descombes le montre, hein, sur des problèmes de philosophie puissants, hein, aujourd'hui encore, donne des situations imaginaires plus compliquées, qui correspondent davantage à l'ensemble des relations en fonction desquelles la morale, l'expérience morale, là je parle plutôt de l'expérience morale, se constitue en deçà de la décision, avant la décision, en quelque sorte. Voilà, donc il n'y a pas antagonisme, à mon sens. Hein, je crois qu'il faut que la morale marche sur plusieurs jambes. Et simplement, La Fontaine a beaucoup réfléchi sur le pouvoir des fables, sur le pouvoir des croyances. Et tous les libertins autour de lui, comme Sorbière, ont réfléchi aussi sur la part de croyance qu'il y a au cœur même de la philosophie, hein, c'est-à-dire les fables cachées sous le discours systématique des philosophes.
D'autres questions ? Oui, madame.
Merci. J'aime beaucoup La Fontaine. Alors, je vous ai écouté, j'ai pris plein de notes. Et alors, j'ai oublié la première phrase que vous avez citée, une certaine étrangeté. C'est une œuvre de Freud. Et là, monsieur vient d'évoquer le fait de la mise en situation, la mise en, de la morale en fonction de la société. Et je crois qu'on va terminer par ces cours par l'hypnose. Et l'hypnose est très dangereuse. Et justement, c'est Freud qui a écrit Données médias de la... Non. Excusez-moi, je suis un petit peu émue là de parler parce que vous avez tellement dit de choses, tellement de choses à dire. Une inquiétante étrangeté. Freud a tout expliqué en fonction de son histoire à lui. On connaît Freud, on connaît l'inconscient par rapport à sa cousine, à sa mère, etc. Enfin, c'est trop long. Mais enfin, qu'on revienne à l'hypnose, alors que c'était ça l'idée de Freud, c'était quand il a vu Charcot hypnotiser les malades, hein, et qu'après, on allait hypnotiser les troupes pour aller faire des actes criminels. Freud, son idée, quand il est rentré de la Salpêtrière, quand il est rentré en Moravie, c'était de détruire l'hypnose. Et c'est comme ça qu'il a inventé la psychanalyse. Voilà, c'est des points, ce que vous avez dit, de la mise en situation d'une morale, d'une technique médicale en fonction du moment.
Oui. Je n'ai pas grand-chose à répondre. Je vous remercie, hein, pour cette analogie. Et il y a un très beau livre de François Roustan que vous connaissez sans doute, hein, sur cette question-là.
Y a-t-il une dernière question ? Non. Monsieur Jean-Charles Darmon, nous vous remercions beaucoup.